Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonjour Léana et bonjour à tous. Bienvenue dans une semaine formidable. Autour de moi, Ricardo Baroni, Ryan Lachny, Bruno Salvé et Eric Figuer. Messieurs, bonjour.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonjour.
Merci d'être une nouvelle fois sur le plateau d'une semaine formidable. Au programme aujourd'hui, cyclisme, rugby et football notamment. On verra après d'ici la fin de l'émission. Mais on va ouvrir aujourd'hui notre discussion, nos débats sur le cyclisme puisqu'il y a eu depuis le début de la saison de belles courses, de très belles courses, et notamment ce week-end, Milan-San Remo en Italie, Riccardo Baroni, c'était encore une fois un classique du cyclisme international, et ça n'a pas forcément changé sur ce qu'on voit depuis un certain temps. Tadej Pogacar, encore une fois, au top.
Oui, en plus avec beaucoup de suspense, hein, puisqu'il est tombé à environ 40 km de l'arrivée. C'est une course où, au début, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est quand même une course qui dure 298 km. Donc en fin de course, les coureurs commencent à être fatigués. Mais à 30-40 km de l'arrivée, on ne sait toujours pas qui c'est qui va gagner. Il y a toujours beaucoup de suspense puisqu'il y a une montée qui est la Cipressa qui est très difficile à faire. Et donc souvent, il y a des attaques et de la sélection qui se fait dans cette montée avant l'arrivée.
Alors Tadej Pogacar, vous l'avez dit, qui a chuté, qui est revenu, qui a beaucoup bataillé pour revenir devant et qui s'est imposé au sprint face à Tom Pidcock. C'était un sprint quand même assez impressionnant, une partie d'assez long. On savait jusqu'au bout, on a douté, on se demandait qui allait passer l'année d'arrivée en tête. Ryan Lachny, vous avez bien évidemment suivi cette course. Comment vous analysez ce retour, cette performance, encore une fois majuscule, de Pogacar?
Bah, on peut dire majuscule parce qu'on soit chuté à 40 km de l'arrivée, surtout sur une course de 298 km, c'est pas rien. Surtout que les dernières 40 bornes, on sait que c'est le money time sur cette course. Moi, franchement, quand il est tombé, je me suis posé la question s'il était vraiment en capacité de revenir et de jouer les premiers rôles. Il l'a fait très facilement, j'ai envie de dire. Et après, ouais, assez de suspense quand même parce que même quand il passe le Poggio, Van Der Poel lâche, mais n'est pas trop loin. Il se regarde un petit peu sur la fin. Van Aert qui sort dans les derniers kilomètres. Après, sur un sprint, on n'avait pas de certitude que Pogacar l'emporte face à Pidcock. Du coup, beaucoup de suspense, mais Pogacar confirme, hein, comme d'habitude.
Et on va, avant de continuer notre discussion sur Milan-San Remo, Riccardo Baroni, vous avez eu des contacts, des amis qui sont proches du Tour, notamment Alex Carrera, qui est le manager de Tadej Pogacar, qui vous a contacté. Vous avez pu échanger avec lui après la course, c'est ça?
Oui, tout à fait. On s'est écrit parce qu'on le voit sur les images à l'arrivée où il embrasse Pogacar et sa femme, qui est super heureux. Il est sur les images avec son frère. Donc c'est vrai que je le connais personnellement. On avait commencé à négocier pour sa venue en Nouvelle-Calédonie de Pogacar, mais après tout ce qui s'est passé avec les émeutes, on a repoussé le projet. J'espère qu'un jour on aura le droit d'avoir un champion comme ça qui vienne en Nouvelle-Calédonie, qui puisse côtoyer tous les jeunes qui sont en Nouvelle-Calédonie. Donc il nous a envoyé un petit son sympa.
On va l'écouter tout de suite.
Today was crazy.
Oui, aujourd'hui, c'était complètement fou. Hein. Une nouvelle page de la légende de l'histoire du cyclisme s'est écrite en Italie. Milan-San Remo était totalement fou quand Tadej a chuté. Il est revenu, il a attaqué. Avec, on peut le noter, l'incroyable travail de Brandon McNulty et d'Isaac Del Toro, mais aussi de tous les autres cyclistes de la Team Emirates. On a eu le droit à un super sprint gagné contre le grand champion Tom Pidcock. Je pense que l'histoire de Pogacar n'est pas encore terminée. Voilà, l'histoire de Pogacar qui s'écrit au fur et à mesure des courses. Et il le souligne, Alex Carrera, qui est le manager de Tadej Pogacar. Forcément, c'est ce nom-là qui revient. Mais il y a tous les coéquipiers, Ryan Lachny, c'est grâce aussi à toute son équipe qu'il a attendu, qu'il a aidé, qu'il a soutenu. C'est ça aussi le cyclisme, c'est seul, mais c'est en équipe.
C'est exactement ça, le cyclisme, c'est aussi un sport d'équipe. Beaucoup de gens ne le savent pas vraiment, mais c'est vraiment important. Il y a vraiment un intérêt à avoir une belle équipe, sachant que dans l'équipe de Pogacar, chacun de ses coéquipiers pourrait être leader dans une autre équipe. Du coup, ça montre un peu la puissance d'une telle équipe. Et oui, je pense qu'il a quand même eu un gros soutien de son équipe et qu'il a quand même mis dans des dispositions plus qu'idéales.
Oui, on l'a vu, la puissance de cette équipe. Isaac Del Toro qui a remporté un tour il y a quelques semaines, qui finit en tête d'un tour. C'est ça aussi, Riccardo Baroni, oui, toute cette équipe-là, elle, elle performe et Tadej Pogacar performe parce qu'il y a du monde derrière lui.
Oui, surtout que l'année dernière, ça s'est passé un petit peu de la même façon dans la Cipressa, mais Isaac Del Toro, au pied de la montée, était bloqué dans le peloton, donc il n'a pas fait son job comme il l'a fait cette année. Et cette année, quand il s'est mis devant et qu'il a accéléré, ça a fait déjà une grande sélection. Et quand Pogacar, derrière lui, a re-attaqué, c'est clair qu'ils se sont retrouvés plus qu'à trois, donc lui avec Pidcock et Van Der Poel, et donc c'est clair que ça a fait une certaine sélection, et grâce à Del Toro, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, il n'était pas là.
Alors grâce à Del Toro, on sait aussi que Pogacar a une puissance, j'ai pas le terme exact, mais a une puissance
impressionnante.
Voilà, il a l'air facile, et vous avez une autre connaissance qui était sur ce Milan-San Remo qui peut témoigner qu'il a croisé quelques jours avant la course Gérald Oberson, qui est un ancien coureur cycliste suisse.
Voilà, c'est un jeune doigt, un ancien coureur cycliste professionnel qui lui va voir toutes les classiques et aime bien être là quelques jours avant et regarder
les entraînements
course.
Un peu comment,
tout
à fait. Comment ça se passe sur les avant-courses. Et il a une petite anecdote, la veille ou l'avant-veille de Milan-San Remo, écoutez.
Gérald, nous, on est arrivé le mercredi, on a fait le Poggio en vélo. Et quand on est arrivé vers le sommet à 200-300 mètres, là, j'ai entendu un scooter. Puis je me suis dit, mais je vais quand même regarder parce que si ça se trouve, c'est Pogacar. Alors, j'ai pas eu le temps de tourner la tête complètement. Le scooter, il m'a passé à côté. Ils sont passés vite, hein.
Voilà, ils sont passés vite, très vite. Tadej Pogacar, entre 50-60 km/h sur un entraînement. C'est ce qu'on voit assez régulièrement, Ricardo Baroni.
Non, on ne voit pas ça régulièrement passer comme ça derrière un scooter. Il faut savoir que qui pilotait le scooter, c'est un Italien qui vit pas loin de la montée finale du Poggio et qui donnait des conseils à Pogacar pour comment entamer cette montée et comment la monter le plus vite possible. Je l'ai faite, cette montée, je la connais. Ce qui est très difficile dans cette montée, c'est qu'il y a des virages. Hein, des virages à 180 degrés et qu'on repart pour ainsi dire arrêter parce que la pente de la montée n'est pas énorme. C'est simplement que chaque fois, à la sortie de chaque virage, il faut relancer et qu'il y a quand même 290 km qu'on a fait avant. Donc
c'est ça aussi, c'est l'accumulation qui fait.
C'est ce qui fait que dans le haut du Poggio où il y a plusieurs lignes droites, souvent c'est là qu'attaquent les plus forts pour faire la sélection. Là, Pidcock, on peut voir sur les images qu'il s'accroche. Comme on dit en jargon, c'est il pédale avec les oreilles pour pas se faire lâcher. Moi, personnellement, quand j'ai vu qu'au sommet, il était avec Pogacar, j'ai pensé que Pidcock allait gagner, puisque je pense que Ryan ne va pas me contredire. Sur 10 sprints, Pidcock en gagne 8. Le problème, c'est que c'est après 298 km et que ce n'est pas un sprint comme on le fait normalement.
Alors, il y a eu ce Milan-San Remo ce week-end. Il y avait eu d'autres courses avant. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le calendrier de la saison? Parce que, expliquez-nous, ce calendrier, il se prépare avec des courses d'un jour, des tours. On a vu notamment, j'ai noté en Australie le Down Under. Il y a eu en Arabie Saoudite. Il y a eu le Tour des Émirats Arabes Unis aussi. Comment s'organise un calendrier sur une saison?
Ben, disons une semaine avant Milan-San Remo, il y a chacun qui fait sa course par étape en pensant que c'est la meilleure préparation pour Milan-San Remo. Donc il y a ceux qui vont à Paris-Nice, où on a eu droit à deux victoires françaises, donc ça fait plaisir. Il y en a une de victoire française que je regrette un peu, puisque l'étape faisait 47 km.
À cause des conditions météo.
Tout à fait, que c'est le champion de France qui gagne, mais il avait tellement froid qu'il n'avait pas le maillot de champion de France, donc c'est un peu dommage que d'être champion de France, de gagner sans lever les bras avec ce beau maillot, donc je pense que ça sera repoussé à plus tard. Et puis on a eu la dernière étape gagnée par Lenny Martinez aussi. Et après, en même temps, il y a une autre course qui est Tirreno-Adriatico, où là aussi, les coureurs se préparent pour Milan-San Remo. C'est une course qui est plus longue, les étapes sont plus longues, le climat est meilleur. Et donc, beaucoup vont à cette course pour préparer Tirreno-Adriatico. Donc, il y avait Van Der Poel qui était, Del Toro qui était aussi sur place. Mais l'anecdote, c'est que ni Pogacar, ni Pidcock étaient ni à l'un ni à l'autre.
Donc, et alors comment ces deux-là prépare ces courses-là? On les a vus, ils étaient quelques jours avant en train de monter, descendre l'école de Milan-San Remo. Comment ces grands champions, que font-ils?
C'est justement tout ce qui a changé depuis quelques années. Maintenant, il y avait des courses préparatoires. Maintenant, c'est plus trop le cas. Il y a toujours des coureurs qui vont sur certaines courses pour se préparer, mais aussi pour faire des points et pour se comparer un petit peu au niveau. Mais aujourd'hui, maintenant, avec les techniques d'entraînement et tout ce qu'on a à l'entraînement, on est capable de reproduire les conditions de course à l'entraînement. Ça veut dire qu'on ne s'inflige plus des déplacements sur des compétitions avec des charges de fatigue qu'on ne peut pas contrôler, choses comme ça. Du coup, des grands champions qui n'ont pas forcément besoin de prouver ce qu'ils valent en allant sur, sans être méchant, sur Tirreno Adriatico ou sur Paris-Nice, qui sont des très belles courses, mais qui ne sont pas des monuments du cyclisme. Je pense qu'un Tadej Pogacar fait vite le choix de rester à la maison et de faire du qualitatif plutôt que d'aller sur un Paris-Nice et prendre le risque de chuter, de tomber malade ou autre. Du coup, le choix est vite fait pour ces équipes.
Un mot sur les Français aussi. On le disait hors antenne, Eric Figuère notamment s'intéressait à un certain Paul Sexas qui est, comme le dit, depuis quelques semaines, quelques mois, déjà une étoile montante du cyclisme français. Il y en a eu d'autres avant. Vous avez parlé de Lenny Martinez, qu'on avait mis très très haut, en haut de l'affiche aussi, il y a quelques temps. Où en sont les Français dans tout ça? Alors, les premiers sur Milan-San Remo, Christophe Laporte 16e, Paul Lapeyra 17, Romain Grégoire 18, ils sont, vous le disiez, dans le paquet à l'arrivée. Est-ce qu'ils peuvent aller plus haut, Ryan Lachny?
Oui, ils peuvent aller plus haut. Après, il y a peut-être des remises en question à faire sur les équipes françaises. Il y a des techniques d'entraînement qui sont différentes en France. On voit certaines équipes qui ont su se remettre en question, comme on en parlait tout à l'heure, comme Decathlon. Non, Decathlon
AG2R. CGM.
Qui a complètement changé tout son fonctionnement, qui ont recruté des entraîneurs belges, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres personnes dans le staff. Et du coup, c'est un changement radical sur la méthode française. Et on voit que ça paye, parce que depuis le début de saison, ça gagne. Et je pense que c'est tout ce qui compte pour ces équipes. Alors, peut-être
Ça gagne des classiques, ça peut gagner des grands tours. Est-ce que la question, c'est Paul Sexas, jusqu'où est-ce qu'il peut aller?
À l'heure actuelle, non. Après, dans quelques années, un Paul Sexta a vraiment le potentiel et pour aller gagner des grands tours. Après, il faut voir comment sera gérée sa carrière, dans quelle équipe. Enfin, si AG2R continue, enfin Decathlon continue à monter, ça peut. Je pense que ça peut le faire. Ça sent bon pour.
Oui, Ricardo Baroni. Vous êtes d'accord sur cet avis-là ou
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec lui. On parlait de Lenny Martinez. Lui aussi, on pensait que ça allait être un grand champion. La seule différence entre Paul Sexas et Lenny Martinez, c'est que Paul Sexas, il a été champion du monde de contre-la-montre. Et maintenant, dans une course par étapes, il y a énormément d'écarts qui se jouent contre-la-montre. Et je pense qu'il a plus de chances, Paul Sexas, d'être un futur vainqueur du Tour de France, puisque pour les Français, il n'y a que ça qui intéresse, c'est d'être vainqueur du Tour de France et en plus un Français.
Les Français attendent ça depuis longtemps aussi.
Tout à fait. Donc, je pense que lui est plus apte dans les nouveaux coureurs qui arrivent, surtout que, comme disait Ryan, il a un encadrement assez particulier, très professionnel, en sachant qu'il est presque parti un mois en stage en altitude, chose qui ne se faisait pas avant. Et donc, il y a autour de Paul Sexas un encadrement qui lui permet de grandir tranquillement. Là, actuellement, sur l'actualité, on parle de Paul Sexas qui devrait peut-être signer dans une autre équipe. Donc, je lisais un article à son sujet. Il disait, moi, je veux rien savoir, je veux pas entendre parler de mon manager, je veux faire du vélo tranquillement cette année et les contrats à signer, on verra en fin d'année ou l'année prochaine. Et ça, on voit une certaine maturité pour grandir et devenir un concurrent des champions qui sont actuellement vainqueurs de grands tours comme Jonas Vingegaard qui a gagné Paris-Nice ou Pogacar qui a gagné plusieurs Tours de France.
Le Tour de France qui approche, hein, on peut le dire ça comme ça, ce sera en juillet, du 4 au 26 juillet il me semble. Avant ça, il y a d'autres courses forcément des classiques, on l'a dit pas cette année pour Paul Sexas, mais cette année, voilà, il y a quand même chaque année on regarde la télé, on suit, on espère que les Français vont aller grappiller des places, un maillot à poids, un maillot de grimpeur.
Faut pas oublier le Tour d'Italie quand même avant le Tour de France. Et que beaucoup conseillent à Paul Sexas d'aller se faire les dents d'abord sur le Tour d'Italie, comme Pogacar qui a commencé chez les pros en faisant le Tour d'Espagne avant de faire le Tour de France. Il est clair que vu les investissements faits par Decathlon CGM sont très importants. Donc est-ce qu'ils vont le mettre sur le Tour de France, Paul Sexas, cette année, ou le mettre sur un autre tour? Personnellement, ça me plairait de le voir sur un autre tour où il pourrait le faire sans aucune pression. Maintenant, vu les entraînements, l'encadrement qu'il a Paul Sexas, on est une possibilité de le voir sur le Tour de France, quoi. Et ça ferait vraiment plaisir, je pense, au public français et même aux autres pour voir enfin un concurrent à la hauteur de Pogacar et de Vingegaard, qui n'est pas que du Remco Evenepoel ou ce genre de coureur, qu'il y en ait encore un autre et qui permet d'avoir un spectacle encore meilleur.
Oui, Ryan Lachini, sur le programme de la saison de Paul Segers, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? C'est comme disait Ricardo Baroni, c'est d'aller s'essayer sur un autre grand tour avant de venir chez lui en France et d'arriver pleinement en possession de tous ses moyens.
Je suis plutôt d'accord, parce que commencer par le Tour de France, je pense que c'est une des plus grosses courses au monde. C'est, comme il dit, c'est un rouleau compresseur. Du coup, je pense qu'il aurait tout intérêt à commencer par un Tour d'Italie ou un Tour d'Espagne pour commencer. Après, vu la pression du sponsor, ça ne m'étonnerait pas qu'on lui demande d'aller sur le Tour de France. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, je ne sais pas. Après, en soi, je pense que Decathlon a deux options. Soit de mettre une équipe 100% sprinter pour essayer d'aller chercher des victoires d'étape, ou soit c'est de mettre une équipe autour de Paul Sexta pour essayer de le faire briller et de lui faire un podium.
Ricardo Baroni.
Moi, je pense que si Paul Sexas signe un contrat à long terme avec Decathlon, CGA, CGM, ils vont le laisser tranquille, mûrir tranquillement. S'il ne signe pas, ils vont se dire, vu les investissements faits, peut-être que ça serait bien qu'il nous fasse tout de suite le Tour de France. Ça n'engage que moi. Mais bon, ça serait bien qu'il reste dans une équipe française, et un Français gagner le Tour de France dans une équipe française, ça serait encore plus le top.
Alors avant de terminer cette page de cyclisme, un petit mot des prochaines courses. Rendez-vous, c'est dès ce soir avec le Tour de Catalogne, et puis ça va s'enchaîner.
Oui, où il y a des coureurs qui n'ont pas participé à Milan-San Remo, des bons coureurs de course par étape, donc le retour de Remco et Evenepoel. Et après, dans 15 jours, commencent à nouveau les classiques avec le Tour des Flandres.
En Belgique.
Voilà, tout à fait. Une semaine après, on a Paris-Roubaix, qui est aussi une course fantastique et qui mérite d'être regardée. Et après, va s'enchaîner Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Italie, et ainsi de suite.
On suivra ça, alors, ce calendrier cycliste pour les mois à venir. La page cyclisme qui se tourne, on en ouvrira une autre peut-être dans les prochaines semaines, dans une semaine formidable. Place tout de suite au rugby avec le top 14 qui était de retour ce week-end, après un tournoi destination, je le rappelle, remporté par l'équipe de France, encore une fois, le 15 de France. Et les jeunes aussi, Bruno Salvé, il faut le rappeler, il n'y a pas que Léa,
les moins de 20 ont remporté le tournoi également, destination, en remportant le Grand Chelem, effectivement.
Et en battant encore une fois les Anglais.
Oui, sur le dernier match. Donc, et les moins de 18 aussi ont battu les Anglais ce même week-end, donc ça a été vraiment...
Le Grand Chelem.
Le Grand Chelem
pour les équipes
vis-à-vis
de France.
Vis-à-vis de nos chers amis britanniques.
Alors, le top 14, 19e journée, c'était ce week-end, qui s'est terminé par un choc, on peut le dire, entre Bordeaux et le Stade Toulousain, l'UBB et le Stade Toulousain, deux des anciens vainqueurs de toutes les compétitions nationales, européennes, internationales maintenant. Et ce choc, il a tourné à l'avantage de l'UBB, 44-20. Comment on analyse cette rencontre? C'est le trop-plein pour le Stade Toulousain, le retour au top 14, où l'UBB a été bien au-dessus, à surclasser?
L'UBB avait vraiment le couteau sur la gorge, entre guillemets, parce qu'ils devaient absolument s'imposer s'ils voulaient rester dans les places qualificatives. Et puis donc c'est vrai que ce sont deux équipes qui ont les deux dernières finales, c'était ces deux équipes là Toulouse est le champion de France en titre, et l'UBB champion d'Europe en titre. Donc c'est vrai que ça a été un match très plaisant, très agréable, avec énormément de mouvements, beaucoup d'essais, une première mi-temps qui a été assez équilibrée entre les deux équipes, et ensuite l'UBB a pris le dessus sur les Toulousains, qui avaient quand même aligné une équipe, on va dire, sans les internationaux. Des internationaux, il y avait juste Movaca et Colombe qui est rentré en cours de match. Après, les Dupont, Jelonche et Kroos et ainsi de suite, tout Ramos, ils étaient tous au repos. Alors que du côté de l'UBB, Yannick Bru, l'entraîneur, avait fait rentrer les internationaux parce qu'ils avaient vraiment besoin de points. Donc ça explique aussi un peu la différence au niveau des équipes. Mais ça a été un match très plaisant. Et puis bon, Toulouse a quand même caracole en tête, hein, puisque Toulouse était à 67 points et largement devant, et à 10 points d'avance sur
Montpellier. On va en parler justement de Montpellier, qui est allé s'imposer sur la pelouse de Clermont 20-17, un essai en toute fin de match alors qu'ils étaient à 14 contre 15. Voilà, Montpellier, on les attendait pas forcément là en début de saison.
On les attendait pas du tout là, et puis voilà, c'est l'équipe surprenante. Bon, en début de saison, c'était Pau, et là, voilà, Montpellier qui
enchaîne 4 victoires consécutives.
4 victoires consécutives, c'est pas facile d'aller s'imposer à Clermont. Donc, d'ailleurs, ça a été sur les 7 matchs du week-end, il y a eu quand même 4 victoires à l'extérieur. Et donc, ça veut dire que les places sont chères pour se qualifier. Et on a eu des surprises. Hein. On a eu aussi Lyon, bon, qui est allé s'imposer à Perpignan de 4 points hein, face à toujours à de valeureux Catalans qui malheureusement n'arrivent pas à s'en sortir. Et surtout le Stade Français qui a fait un gros coup en allant
s'imposer
battre
à Toulon.
Toulon
à la maison. La blessure de Serein, tout de
oui,
même.
Et avec un bonus offensif donc pour le Stade Français. Et donc c'est vraiment un gros coup pour les soldats roses là, du Stade Français. Et on se retrouve vraiment avec à l'approche des phases finales. C'est la 19e semaine sur 26, donc il y a encore pas mal de matchs, mais l'écart commence à se creuser et il faut vraiment être dans les premiers pour pouvoir se qualifier et accéder à ces phases finales.
Oui, on va faire un petit point sur le classement. Le Stade Toulousain, vous le disiez, qui est en tête avec 67 points. Montpellier derrière 57, la section paloise et l'Union Bordeaux-Bègles 55, le Stade Français 54, Clermont 52, le Racing 92 50, et là il y a un petit gap après derrière avec le Stade Rochelet, Toulon 45, Lyon 43, Castres 42, l'Aviron Bayonnais 41, et puis en bas du classement on retrouve l'USAP 19 et Montauban 7 points seulement pour les promus qui vont redescendre dès cette année, qui font le yo-yo, mais c'est assez classique.
Ils sont dans une démarche où même bon, ils savent qu'ils vont redescendre en Pro D2 qui est leur niveau, mais ils jouent crânement leur chance, ils arrivent à marquer des essais, donc ils se font plaisir, voilà, donc ils ont quand même marqué 26 points même si c'était chez eux contre Bayonne, et donc c'est vraiment une équipe qui prend du plaisir à jouer en top 14 parce que bon, ils savent qu'ils vont redescendre en Pro D2 à la fin de la saison.
Alors un petit mot aussi sur la section paloise, vous l'avez dit, c'était l'équipe surprise du début de saison qui maintenant est un peu en dents de scie, une victoire, une défaite, oui, qui est toujours là, hein, qui est toujours à la troisième place, tout de même, il faut le signaler. Ce week-end, qui s'est incliné 20-6 sur la pelouse du Stade Rochelet.
La Rochelle, qui avait fait un début de saison très compliqué et qui maintenant enchaîne quelques victoires et surtout retrouve son invincibilité à la maison face à une équipe de Pau. Donc c'est de bon augure pour les Rochelais qui peuvent encore prétendre à la qualification. Donc c'est vraiment très 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 serré. Hein. Vous avez donné les points. Donc c'est vraiment très serré entre le troisième et le
premier et le
et
septième.
Le huitième, et le septième, déjà, entre le troisième et le septième, il y a 5 points seulement, donc une victoire bonifiée, et ça peut chambouler énormément de choses. Et bon, La Rochelle, Toulon et Lyon sont aussi, ainsi que Castres, peuvent aussi créer des surprises et espérer se qualifier pour ces phases finales.
Avec la semaine prochaine, des rencontres aussi qui peuvent... on va pas dire décisives, puisqu'il en restera d'autres derrière, mais un choc entre le Stade Toulousain et Montpellier. Le premier contre le deuxième.
Ouais, bon, après Toulouse, quand ils reçoivent chez eux, c'est à chaque fois c'est minimum 40 points plus le bonus offensif. Donc voilà, ça va être intéressant. On va voir ce que
Montpellier peut proposer.
Est-ce que Montpellier va envoyer une grosse équipe ou va plutôt faire l'impasse sur ce match-là, parce que bon, on sait que l'issue à Ernest Vallon est toujours très compliquée. On va avoir aussi un Pau Racing qui va être très intéressant. Et puis
un Stade Français Clermont, 5e contre 6e.
Absolument.
En clôture de cette journée, voilà, c'est aussi c'est des rencontres chaque semaine. On a l'impression que tout peut être chamboulé en rugby,
basculer,
et
ouais.
On va faire le lien aussi avec le foot pour après en Ligue 1. C'est un peu la même chose en haut du classement. Tout peut arriver entre la deuxième, sixième, septième place. C'est ça aussi le sport français, de pouvoir voir tous les week-ends un peu de changement.
Carrément, oui, complètement. On est vraiment dans un mouchoir de poche sur ces places qualificatives. Et en plus, donc après la journée de top 14 de la semaine prochaine, les équipes vont enchaîner sur le huitième de finale de la Coupe d'Europe. Donc on parlait des cadences infernales. Ça continue.
Ça ne s'arrête jamais. On a
pour les rugbymen.
Oui, justement, cet enchaînement là. Alors, je suis tombé par hasard sur la rencontre entre Toulon et le Stade Français, et j'ai eu l'impression de voir des internationaux français un peu fatigués, essoufflés. On a vu notamment le capitaine, l'ancien capitaine du 15 de France à Toulon, qui était...
Olivon,
qui était un peu... Je ne vais pas dire à la rue, parce que ce serait trop, mais voilà, émoussé.
Oui, après, le Stade toulousain a un effectif tellement riche qu'il peut se permettre de se déplacer à Bordeaux avec une équipe.
L'avance aussi est considérable.
Oui, avec 10 points d'avance. Donc, ils peuvent se déplacer à Bordeaux avec une équipe jeune qui arrive à performer tout de même. Mais bon, il faut avoir un effectif assez riche pour pouvoir faire ce type d'impasse. Même Bordeaux n'a pas ménagé ses internationaux. Donc, voilà, il faut, pour les managers et les entraîneurs, c'est vraiment aussi bien gérer l'effectif. Et pour se préserver, pour qu'il y ait de moins en moins de casse, et puis surtout aller voir, parce que ces équipes-là jouent sur deux tableaux, ils jouent sur le top 14, mais aussi sur la Coupe d'Europe. Donc ça fait une accumulation de matchs, et de plus les matchs internationaux. Donc il faut être costaud.
Oui, Eric Figuère, avant la pause, 17h30, on approche de l'heure fatidique, ce top 14. Votre analyse sur ce classement, sur ces chamboulements un peu tous les week-ends.
Bruno a dit l'essentiel, mais moi je serais curieux, contrairement à ce qu'il a dit pour le prochain match de Montpellier à Toulouse, où Montpellier pourrait effectivement choisir de laisser reposer les cadres, comme on dit. Ça pourrait être très intéressant aussi pour eux, vu l'année dernière particulièrement compliquée qu'ils ont vécue. Et cette année, c'est quand même une belle surprise de les voir tout en haut du classement. Ils restent sur 4 victoires consécutives. C'est assez impressionnant, vu la différence d'une année sur l'autre. Et je pense qu'ils peuvent avoir de l'ambition cette année, et ça peut être intéressant pour eux de se jauger un petit peu, justement, face à l'ogre toulousain. Donc je pense que le match, s'ils choisissent de le jouer en tous les cas, de vraiment le jouer, peut être très intéressant. Après, Bruno, et vous l'avez tous dit, c'est très serré entre la deuxième, troisième et septième place. Il commence à y avoir un petit gap avec la huitième. Donc ça va être difficile quand même de revenir, même si on se rend compte que d'une semaine sur l'autre, d'un week-end sur l'autre, et en recevant et en se déplaçant, et ben, y a à chaque fois ça bouge, ça monte, ça descend. Mais c'est intéressant.
Alors vous le dites, ça bouge, ça monte, ça descend.
Sauf évidemment les deux derniers qui, eux, les positions sont figées maintenant. Montauban, effectivement, va descendre. Je ne suis pas convaincu, contrairement à ce que dit Bruno, qu'ils prennent du plaisir à prendre 60 points tous les week-ends. Je pense qu'ils peuvent aussi en profiter et se préparer.
C'est aussi de l'expérience pour l'année prochaine. Et pour
L'expérience, oui, mais prendre 60 points, on le sait dans toutes les disciplines, quand on prend casquette et valise sur valise, ça peut aussi faire mal à la tête. Et ça peut aussi laisser des traces pour ceux qui ne resteront pas forcément à Montauban l'année prochaine, et aussi pour ceux qui vont rester pour redémarrer très rapidement la saison en deuxième division. Donc attention quand même à eux. Le retour dans la division inférieure pourrait être très compliqué pour eux. Alors bon, ça risque rien, ils resteront en deuxième division, mais voilà, ça peut être difficile quand même pour eux. Et après, Perpignan, l'USAP se préparent, je pense. Ils ont fait un beau match ce week-end. Ils perdent de justesse. Ils auraient, je le pense, mérité, sans forcément que je sois parti intéressé, mais ils auraient mérité, je pense, de gagner. Ils prennent le bonus défensif. Ils ont fait deux, trois petites erreurs. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans tous les matchs, que les moindres petites erreurs se payent, comme on dit, cash. Alors, c'est un lieu commun que de dire ça. Mais c'est vrai. Et là, ils méritaient de gagner. Ils ont fait deux, trois petites erreurs sur la fin. Ils perdent le match. Ils prennent le bonus défensif. Alors ça n'a pas d'importance sur le classement
ils ont déjà 22
de la journée
20,
et de la saison même
22 points de retard
ne reviendront pas sur le 12e. Donc c'est pas très important, mais là pour le coup c'est important malgré tout d'être au contact, d'être en capacité de gagner ces matchs pour justement là pour le coup préparer les matchs de barrage. Même si c'est pas tout de suite.
C'était le mot de la fin pour cette page rugby. L'heure 17h33 déjà, c'est la pause. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite. On parlera football dans quelques instants.
RRB, la pub. Suivez les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec Toyota, chaque jeudi à midi. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Connay. Nouveau design, nouvelle couleur, venez essayer le nouveau Toyota RAV4. Confort, technologie, performance, une expérience de conduite, rien que pour vous. Toyota à Ducos et à Connay, téléphone 25 52 52, financement sur place. Le tout info continue avec la BCI. 10 000 francs offerts jusqu'au 30 avril pour l'ouverture d'une convention Bagnant. Sous condition. Détails en agence ou sur www.bci.nc. Offre réservée aux nouveaux clients particuliers.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La deuxième mi-temps de votre semaine sportmidable présentée ce soir par Léo Fichou.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Deuxième mi-temps, effectivement, Pierre, de cette semaine sportmidable. Encore une dizaine de minutes ensemble. On va parler football, la Ligue 1 ce week-end. Et encore une fois, Eric Figuère, comment rugby, du changement ou du classement. Le Paris Saint-Germain qui récupère la tête. Et puis derrière, le deuxième passe troisième, le quatrième cinquième, le sixième troisième.
Ouais, c'est surprenant sans être surprenant parce que Paris maintenant quand même a repris la main, même si le calendrier fait que l'équipe de Lens qui joue avant gagne son match, et inversement, Paris joue avant, gagne son match, donc une équipe prend la tête puis la repère le lendemain. Maintenant, ça, il y aura pas de surprise à l'arrivée, Paris va gagner, il y a pas de souci. Mais Lens va rester au contact et ça c'est bien, il le montre encore ce week-end avec un très très gros match. Alors certes, il reçoit Angers,
ils en mettent 5.
Mais ils en mettent 5 et surtout ils en mettent 5 de belle manière, c'est surtout ce qui compte. Faire un coup d'éclat de temps en temps, et on peut en parler avec l'OM par exemple, c'est bien, mais avoir cette constance, cette régularité, c'est ce que Lens propose, même s'ils ont un petit peu trébuché la semaine précédente, mais c'est pas grave, ils reprennent leur marche en avant, ils restent au contact et je pense qu'ils vont rester au contact. Donc même si on pense normalement que Paris va être devant au bout, ça va mettre de l'animation jusqu'au bout. Et puis Lens, en espérant qu'ils gardent encore une fois leur meilleur joueur pour l'année prochaine, va nous proposer de choses intéressantes pour la Champions League en 2027.
Et quand on parle de meilleur joueur, on est obligé de citer Florian Thauvin qui encore une fois
sur la liste de Didier Deschamps, et c'est ça
qui n'est, voilà, une, qui ouais. n'est pas appelé en équipe de France malgré cette très belle saison. On en parlait, je me souviens, en début de saison, en août dernier, le retour de Florian Thauvin, bonne ou mauvaise chose pour Lens? Visiblement c'est une bonne chose pour Lens, mais pas forcément pour lui en équipe de France. On pouvait s'y attendre.
Alors, c'est certain qu'il a de l'ambition et c'est certain qu'il a envie d'être appelé par Didier Deschamps, c'est une évidence, mais il sait aussi d'où il vient, il sait aussi que la porte est de moins en moins ouverte. Il sait que Didier Deschamps aussi a tendance à faire confiance à des joueurs entre guillemets historiques. Donc c'est compliqué, même si lui a très bien connu l'équipe de France. Mais moi, je pense que c'est pas perdu pour lui. Il est certes pas appelé sur ce rassemblement-là, mais
le prochain c'est la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai qu'on y est, on est tout près. Mais Deschamps surveille tout son petit monde. Et comme on voit bien qu'il y a énormément de blessés de manière
on a vu
très régulière.
Saliba qui a dû déclarer forfait.
Il y en aura avant la liste finale et probablement entre la liste finale et le début de la compétition. Donc moi, je pense voilà, qu'il a une petite chance. Je pense qu'il finira par être appelé. Alors bon, mais il n'y a malheureusement pas autant de place que certains le voudraient, hein, malheureusement. Donc il ne pourra pas prendre tout le monde. Mais c'est un joueur et qui aujourd'hui est un vrai, vrai bon joueur de groupe aussi. Et c'est une des priorités des listes de Didier Deschamps, c'est que ça fonctionne dans le groupe. Donc je pense que ça peut être intéressant pour lui.
Un autre joueur qui, malheureusement ou heureusement, qui a fait son temps et qui ne sera plus appelé en équipe de France, c'est Olivier Giroud, qui une nouvelle fois répond présent. C'était face à Marseille, alors forcément Eric Figuère, on est obligé de le signaler.
Non, hein. Il va avoir, non mais c'est pas grave. ils ont fait un match solide. Ils l'emportent à 10 minutes de la fin, voilà, 2-1 au Vélodrome. Donc tant pis pour les Marseillais, ils font pas le nécessaire. Ben voilà, ils payent. Hein. C'est normal, c'est le sport. Ça. Quand on fait pas les efforts et quand on fait pas le job, on repart à la maison sans points. Et c'est le cas, c'est ce qui leur est arrivé ce week-end. Olivier Giroud, bientôt 40 ans. Voilà, il est toujours. Alors évidemment, il ne peut pas être en aussi bonne forme qu'à 35 ou à 30 ans, mais il reste vraiment un joueur sur lequel on compte et sur lequel ses équipes, les équipes pour lesquelles il joue, comptent. Donc c'est vraiment un monument.
Un monument, et là aussi, c'est un joueur de groupe. C'est un joueur
sûr,
qui rentre dans le groupe
sûr,
et qui tire le groupe vers le haut.
Mais c'est important d'avoir des qualités, c'est important de les travailler, ces qualités, mais c'est aussi important d'avoir une bonne attitude, d'avoir un bon comportement et d'être, comme on dit un peu vulgairement, un mec bien. Voilà, on parlait de cyclisme, que c'était un sport individuel, mais d'équipe aussi. Et c'est important dans toutes les vies de groupe d'avoir des joueurs. Alors certes, quand on est Diego Maradona, quand on est des joueurs comme ça, comment il s'appelle, Paris Saint-Germain, oui, non, Messi encore, bon, il a toujours été quand même plutôt un coéquipier plutôt apprécié. Je parlais du Suédois, je pensais au Suédois.
Ibrahimovic.
Voilà, merci Zlatan. Donc on sait que ces joueurs-là, effectivement, sont importants dans les groupes aussi, mais on ne peut pas avoir que des joueurs à fort caractère. Il faut aussi des bons mecs. Il faut aussi des joueurs qui font le liant. Et quand en plus ils marquent des buts, quand en plus ils sont essentiels sur le terrain, ben voilà.
Ricardo Baroni, vous voulez réagir à ces joueurs-là ?
On parlait de Marseille, mais moi ce qui me surprend dans le championnat français, c'est l'Olympique Lyonnais, qui actuellement, ils avaient tous peur qu'ils reviennent pour se qualifier pour la Champions League, et là...
C'est la descente aux enfers. Ils ont encore perdu ce week-end. Ils avaient enchaîné deux défaites, deux nuls, une nouvelle défaite.
Oui, je trouve que là, il se passe quelque chose. Surtout que j'aimais bien le nouveau joueur qui était arrivé dans l'Olympique Lyonnais.
Le Madrilène.
Voilà, c'était. On avait l'impression que c'était une équipe qui avait changé. Et là, ils collectionnent les défaites et.
Je pense que leur niveau, en fait, alors ils ont eu des résultats qui les ont fait bien réussir en Coupe d'Europe, qui les ont amenés tout doucement tout en haut du classement de Ligue 1. Mais je pense sincèrement que leur niveau pour cette année était un peu surévalué et que les résultats étaient un peu en trompe-l'œil.
C'était des joueurs qui surperformaient, qui
n'avaient pas. Oui, je pense qu'il y a eu, de bons concours de circonstances pour eux, et je pense que leur niveau aujourd'hui est pas dans le top 3. Je peux me tromper, évidemment, ils me feront peut-être mentir, et tant mieux pour les supporters lyonnais, mais je pense qu'il leur manque encore un petit quelque chose, et ils seront sans doute l'année prochaine de plus sérieux concurrents. Là, ça va être un peu juste. Ce qui peut être intéressant pour eux, c'est qu'il y a beaucoup d'inconstances devant. Marseille, bien sûr, Lille, Monaco,
Lens, le Paris Saint-Germain aussi, qui ça leur arrive de perdre aussi.
Ça leur arrive, mais ils sont quand même pour le coup bien plus solides, et on le voit au classement. Hein, les points quand même commencent
entre 10 et 13 points d'écart.
Ouais. Hein, donc c'est beaucoup. Et puis le jeu qui est proposé est bien différent entre ces deux équipes-là. Alors Paris, on le voit bien sûr avec la Coupe d'Europe, on sait exactement ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais Lens le montre tous les week-ends en championnat. C'est vraiment une très 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 belle équipe. Ça joue très très bien. Je reparle systématiquement des coachs, des managers. Et là, pour le coup, Pierre Sage fait un travail exceptionnel. Et quand on, c'est très très intéressant d'écouter les conférences de presse. On comprend beaucoup de choses en écoutant les conférences de presse, en écoutant les coachs, ce qu'ils ont à dire. Et quand on écoute Pierre Sage, on a tous envie, enfin tous ceux qui ont joué au football, on a tous envie d'avoir un coach pareil. Alors bon, c'est pas un magicien non plus, hein. Il a été plus ou moins poussé dehors à Lyon, donc on peut toujours se poser des questions. Et puis là, ça marche. Est-ce que ça marcherait dans d'autres clubs ? Est-ce que ça va marcher l'année prochaine ? Bien évidemment. Mais ce qu'il dit dans ses conférences de presse est très très intéressant. Et je pense que Silence, enfin c'est pas je pense, et je suis certain même que Silence aujourd'hui marche très
c'est
très bien.
C'est aussi grâce à.
Ah c'est pas aussi, c'est surtout grâce à lui.
Mais il faut aussi, les joueurs soient derrière.
Évidemment,
on le sait bien.
Les 11 joueurs, ce sont eux.
Et plus ceux qui sont derrière parce
mais
que
s'ils font la différence, c'est qu'ils sont bien préparés, c'est qu'ils sont bien entraînés, ils sont bien encadrés. Et ça compte énormément.
L'heure tourne, 17h42, déjà l'heure de vos coups de cœur, messieurs. Ricardo Baroni, je me tourne vers vous.
Pour
votre coup de cœur.
Oui, mon coup de
cœur. On va essayer de faire assez rapide, monsieur, pour aller à 17h45.
Non, je refuse.
Mon coup de cœur, c'est Marco Bezzecchi, qui a gagné le MotoGP Grand Prix du Brésil et qui se retrouve en tête du championnat.
Quatrième victoire d'affilée.
Pour ?
Pour Bezzecchi.
Pas dans le sprint.
Non, mais
dans les courses principales.
Sur l'année dernière et l'année...
Et qui se retrouve en tête donc, du classement de la Coupe du Monde de MotoGP. Donc ça fait toujours plaisir, et en plus sur une moto italienne.
Bruno Salvé.
Un petit coup de cœur pour Peato Movaca, qui a joué ce matin son 150e match avec le Stade Toulousain, excusez du peu. Donc qui revient d'une grave blessure au genou, qui revient en pleine forme. Donc ça fait toujours plaisir pour ce joueur qui a été formé, je le rappelle, à Numbea, et qui performe aussi en équipe de France. Voilà, bravo.
Éric Figuère.
Golf, bien sûr. Ce matin se jouait le dernier tour du Valspar Championship, qui a vu la victoire du joueur anglais Matthew Fitzpatrick. Une très très belle victoire. Il avait perdu la semaine dernière en play-off. En lâchant un petit peu sur la toute fin, du match, puisque c'était justement le play-off. Et là, il a assuré, il a été énorme sur la dernière partie du parcours, et notamment sur le dernier trou, puisqu'il lui a fallu aller chercher un birdie pour gagner. Donc c'est une très 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 belle victoire. Et puis très très vite, la 11e place de Mathieu Pavon. Et ça c'est bien, parce qu'il a une année 2025 très difficile. Il se bat cette année pour conserver ses droits de jeu, et une 11e place en jouant très très bien, c'est de très très bon augure pour la suite.
Ryan Lachny, pour terminer, votre coup de cœur.
Petit coup de cœur local pour l'équipe du Pôle Espoir de Nouvelle-Calédonie qui est partie aujourd'hui en déplacement au championnat d'Australie.
À Brisbane,
c'est ça, ça va être une bonne expérience pour eux et j'espère qu'ils vont en vivre une belle expérience.
On suivra ça. Donc, c'est le championnat d'Australie cyclisme sur piste des moins de 19 ans.
C'est ça, du 24 au 29 mars.
Eh bien, on suivra avec grand intérêt donc ces quatre jeunes Calédoniens qui sont partis en Australie. Merci, messieurs, pour cette nouvelle semaine sportmidable.
Merci, bonne soirée.
Merci.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportmidable sur Radio Rythme Bleu.